Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mardi 19 septembre 2023. Ouverture aujourd'hui du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Joe Biden fustige l'agression russe en Ukraine.
Le partenariat pour la coopération atlantique a deux objectifs principaux.
Johann Schmontis analysera les enjeux de la mise sur pied du partenariat pour la coopération atlantique en marge de l'Assemblée générale dans la partie magazine. Les cinq Américains libérés par l'Iran sont arrivés aux États-Unis. Le Mali déplore la mort de 5 soldats. 11 autres sont portés disparus après les affrontements de dimanche avec les rebelles Touareg. Au Soudan, les Nations Unies s'alarment des décès d'enfants alors que la crise sanitaire s'aggrave. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal. 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York, la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale commencée hier a culminé aujourd'hui avec le débat général. Le président américain Joe Biden s'est exprimé. Nous retrouvons Alexandrine Ollongnon, notre envoyée spéciale à la grand-messe de l'ONU, pour un point en direct sur les interventions du jour. Bonsoir Alexandrine.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Alors, des dernières interventions à la tribune des Nations Unies en août, celle du président sud-africain qui s'est exprimé il y a quelques instants. Le président Cyril Ramaphosa a dénoncé les milliards de dollars consacrés à la guerre plutôt qu'au développement. Il a également renouvelé son appel à la démocratie en Ukraine, disant que la guerre en Ukraine est au cœur des discours des chefs d'État depuis ce matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même s'est exprimé il y a quelques instants également. Il a notamment affirmé que la Russie n'a aucun droit de détenir des armes nucléaires. Il a également accusé la Russie de se servir de l'alimentation et de l'énergie comme d'une arme. Le président Joe Biden, de son côté, qui a été le deuxième dirigeant à prendre la parole aujourd'hui à la tribune des Nations Unies, lui a déclaré que le monde doit se dresser aujourd'hui contre ce qu'il a qualifié d'agression délibérée de l'Ukraine par la Russie, afin de décourager toute agression future du même type. Le président turc Recep Tayyip Erdogan fait également partie des dirigeants qui ont pris la parole aujourd'hui. Et dans son intervention, il s'est aussi engagé devant l'Assemblée générale de l'ONU à intensifier ses efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et pour revenir un peu plus sur le discours de Joe Biden, qui est l'un des points culminants de ce jour, il a lancé un appel pour Haïti. Le président américain a appelé à envoyer au plus vite une force internationale en Haïti pour lutter contre les gangs armés qui sèment la panique au sein de la population. Voilà le résumé des dernières interventions ici à la tribune des Nations Unies à New York.
Voilà, Alexandrine Ollongnon, envoyée spéciale VOA Afrique à l'Assemblée générale des Nations Unies. Joe Biden a donc évoqué à la tribune de l'ONU Haïti et l'Ukraine, mais il a aussi parlé de l'actualité sur le continent africain marquée par des coups d'État. Voilà ce qu'en dit le président américain.
We stand with the African Union and ECOWAS.
Nous sommes aux côtés de l'Union africaine, de la CEDEAO et d'autres organismes régionaux pour soutenir l'état de droit. Nous ne reculerons pas et nous ne renoncerons pas aux valeurs qui font notre force. Nous défendrons la démocratie, notre meilleur outil pour relever le défi auquel nous sommes confrontés dans le monde entier, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Le G7 va mobiliser 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour le financement des infrastructures.
Le président américain Joe Biden, ce matin à l'Assemblée générale des Nations Unies, hormis les États-Unis, aucun autre membre permanent du Conseil de sécurité, France, Royaume-Uni, Chine, Russie, ne sera représenté au plus haut niveau lors de cette grand-messe annuel. L'actualité américaine proprement dite, les États-Unis sont une nouvelle fois face à un danger d'impasse politico-financière. Le Congrès risque de provoquer une paralysie de l'État fédéral dans moins de deux semaines, faute de s'accorder sur un nouveau budget. Plusieurs projets de loi de finances concurrents sont actuellement en débat à Washington sans qu'aucun d'eux ne dispose d'assez de voix pour être adopté par le Sénat à majorité démocrate et la Chambre des représentants aux mains des républicains. Les parlementaires ont jusqu'au 30 septembre à minuit pour se mettre d'accord, sans quoi tous les financements des services fédéraux seront soudainement coupés. 5 Américains libérés par l'Iran dans le cadre d'un échange de prisonniers et d'un accord facilité par le déblocage de 6 milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes gelées sont arrivés aux États-Unis. Le point avec Nani Talani.
5 ex-prisonniers américains ont atterri sur une base militaire près de Washington, accompagnés de diplomates. Ils avaient été condamnés pour diverses accusations, dont espionnage, que Washington jugeait infondé. Tous sont d'ascendance iranienne, mais l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a publié leurs photos accompagnées du message « Bienvenue chez vous ». Un transfert de fonds iraniens de 6 milliards de dollars gelé en Corée du Sud a facilité cette libération. Issus de la vente d'hydrocarbures par Téhéran, ces fonds, qui ont été bloqués à la suite de sanctions américaines, seront rendus à l'Iran. En plus, 5 Iraniens poursuivis ou condamnés aux États-Unis pour différents délits ont bénéficié de mesures de clémence. Ces négociations ont valu au président Joe Biden de vives critiques des républicains et d'autres opposants à l'accord monétaire avec l'Iran.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités de l'Est de la Libye ont demandé aux journalistes de quitter la ville de Derna, touchée par des inondations, a déclaré aujourd'hui un ministre du gouvernement estimant que le grand nombre de journalistes sur place compliquait le travail des équipes de secours. Cet ordre intervient alors que des manifestations ont eu lieu lundi à Derna pour protester contre la réponse des autorités aux inondations jugées insuffisantes. Dans la soirée, des manifestants ont pris d'assaut et incendié la maison du maire. Abdul Meman Al-Gaiti a déclaré à Reuters, son chef de bureau. Au Mali, 5 soldats ont été tués, 11 autres sont portés disparus après l'attaque de dimanche de 2 camps militaires à Léré, dans le sud-ouest du pays, a indiqué l'armée. Ces attaques ont été revendiquées par une alliance de groupes armés à dominante Touareg. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, l'armée soutient avoir perdu un avion, mais avoir neutralisé plus d'une trentaine d'assaillants lors des combats de Léré. Elle a imputé l'attaque à des terroristes. La CMA, Coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes dominés par les Touaregs, a revendiqué l'attaque et la prise de 2 camps militaires dimanche à Léré, au sud-ouest de Tombouctou. Elle a aussi affirmé avoir abattu un avion de l'armée malienne. Les assaillants ont ensuite quitté les lieux d'eux-mêmes ou ont été chassés par l'armée malienne, selon des versions contradictoires. La CMA a repris ses opérations contre l'armée malienne en septembre. Les rebelles maliens avaient signé avec l'État central en 2015 un accord de paix censé mettre fin aux hostilités. Le regain de violence dans le nord coïncide avec le retrait en cours de la MINUSMA et la cession par des camps de l'ONU aux autorités maliennes. Les rebelles estiment que les emprises onusiennes devraient revenir sous leur contrôle.
Nous reviendrons sur la situation à Léré dans la partie magazine. L'Assemblée législative de transition au Burkina Faso a voté ce mardi une loi autorisant l'envoi pour 3 mois renouvelables d'un contingent militaire au Niger voisin menacé d'une intervention armée par des pays ouest-africains depuis un coup d'État. Un collectif d'une centaine de citoyens européens vivant au Burkina Faso, dont des Français, ont déploré ce mardi les mesures prises par la France contre ce pays, se disant victime de l'escalade des hostilités diplomatiques entre Ouagadougou et Paris. Le collectif appelle donc à la reprise de la coopération, à la reprise immédiate de la délivrance de visas aux ressortissants burkinabés et à l'annulation du classement en zone rouge des villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, indique-t-il dans une lettre ouverte adressée à Paris. Selon les Nations Unies, des dizaines de milliers d'enfants au Soudan risquent de se retrouver au seuil de la mort d'ici la fin de l'année dans un pays ravagé par la guerre, les épidémies et la malnutrition. Les précisions de John Lindon.
Plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition dans 9 camps de déplacés au Soudan depuis le mois de mai et des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année, indique l'ONU. En raison des attaques incessantes contre les services de santé et de nutrition au Soudan, l'UNICEF craint la mort de plusieurs milliers de nouveau-nés d'ici à la fin de l'année. Selon l'agence onusienne, chaque mois, 55 000 enfants doivent être traités pour la forme la plus mortelle de malnutrition. L'UNICEF manque de fonds. L'agence onusienne a reçu moins d'un quart des 838 millions de dollars qu'elle avait demandé pour venir en aide à près de 10 millions d'enfants au Soudan.
Au Nigeria, l'opposant Atiku Abubakar a déposé ce mardi un recours devant la Cour suprême pour contester la décision de la justice confirmant la victoire du président Bola Tinubu lors de l'élection de février. Une plainte déposée par les candidats malheureux à la présidentielle, Peter Obi et Atiku Abubakar, avait été déboutée en première instance. Les deux candidats de l'opposition nigérienne avaient demandé au tribunal d'annuler l'élection en invoquant des irrégularités. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
En RDC, le gouvernement annonce avoir débloqué 10 millions de dollars pour le leasing de deux avions et d'autres acquisitions visant à relancer la compagnie aérienne nationale Congo Airways. L'annonce, relayée par Financial Afrique, a été faite lundi par le ministre des Transports, Marc Ekila, dans un communiqué. Au Cameroun, sur les plus de 776 milliards de francs CFA générés par les industries minières en 2021, un peu plus de 589 milliards de francs CFA ont été reversés au trésor public, soit une hausse de 60 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2020, au terme duquel quelques 535 milliards de francs CFA avaient atterri dans les caisses de l'État, souligne Financial Afrique. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a relevé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 grâce au bon comportement de l'économie américaine qui a fait preuve d'une solidité inattendue. Selon l'agence Ecofin, la croissance mondiale pour 2023 devrait se situer à 3% et devrait ralentir à 2,7% en 2024. En raison du ralentissement attendu en Chine.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer, l'unité d'intégrité fait appel du cas Toby Amoussan.
Oui, l'unité d'intégrité de l'athlétisme a annoncé hier avoir fait appel devant le tribunal arbitral du sport pour le cas de la recordwoman du monde nigérian du 100 mètres haies. Toby Amoussan avait été suspendu provisoirement en juillet suite à une instruction de l'unité d'intégrité de l'athlétisme avant de voir sa suspension levée par le tribunal disciplinaire le 17 août. L'organe antidopage de l'athlétisme mondial reproche à Amoussan 3 manquements à ses obligations de localisation en moins d'un an, pouvant valoir 2 ans de suspension. La Nigériane avait réussi une superbe saison 2022 avec le titre mondial et le record du monde 12 secondes 12 à Eugene dans l'Oregon, ici aux États-Unis, ville où elle s'est imposée dimanche lors des finales de la Ligue de Diamants 2023.
En Europe, la nouvelle saison de la Ligue des Champions débute ce soir.
Manchester City aborde la défense de son titre contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le PSG sort d'une grosse déconvenue battue chez lui par Nice 3-2 et compte sur son buteur toujours en forme, Kylian Mbappé. Déjà 7 réalisations cette saison pour assumer son statut de tête de série. À suivre aussi Feyenoord Celtic. Le FC Barcelone commence à domicile contre le Royal Antwerp. Le Shakhtar Donetsk, qui ne peut pas jouer ses matchs à domicile dans une Ukraine en guerre, accueille le FC Porto à Hambourg, en Allemagne.
Plusieurs footballeuses espagnoles grévistes se présentent finalement en sélection.
La joueuse du Real Madrid, Olga Carmona, qui a marqué le but vainqueur en finale de la Coupe du Monde, et 4 autres internationales ont rejoint leur sélectionneuse et son staff à Madrid. Toutes étaient signataires du communiqué publié vendredi dans lequel 39 joueuses, dont 21 des 23 championnes du monde, annonçaient que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles rejouent avec l'Espagne. Après la démission de Luis Rubiales suite à son baiser forcé imposé à Jenny Hermoso et le licenciement du sélectionneur José Vilda, elle demande des changements structurels profonds au sein de la Fédération espagnole de football. Une 6e joueuse, Atenea del Castillo, qui, elle, n'est pas en grève, s'est aussi présentée au regroupement. La totalité des grévistes vont-elles accepter leur convocation ? Oui, a assuré la sélectionneuse Motsé Tomé, après avoir annoncé une liste comprenant 15 championnes du monde et d'autres joueuses qui refusaient de rejouer pour la sélection. L'Espagne doit affronter la Suède vendredi et la Suisse le 26 septembre en Ligue des Nations, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Page d'espoir VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écho du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, 32 pays comprenant les États-Unis et 15 nations africaines ont initié le partenariat pour la coopération atlantique. Pour comprendre l'objectif que vise ce nouveau forum, Eric Manirakiza a joint à New York Joan Smonsis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Le partenariat pour la coopération atlantique a deux objectifs principaux. Premièrement, unir la communauté des États atlantiques autour d'un cadre pour s'engager plus efficacement avec l'un avec l'autre. Et deuxièmement, articuler un ensemble de principes directeurs pour la coopération atlantique, comme indiqué dans la déclaration de la coopération atlantique qui a eu lieu hier.
Quelle est la différence entre ce partenariat pour la coopération atlantique et les forums multilatéraux existants? Quelle contribution spécifique ce nouveau partenariat apportera-t-il en termes de richesse ou de bénéfices?
Bon, il y a plusieurs aspects qui sont nouveaux dans ce partenariat. Pour une chose, le partenariat pour la coopération atlantique est le premier groupement atlantique à inclure à la fois l'Atlantique du Nord et l'Atlantique du Sud et aborder un large éventail de questions sur les priorités communes à ces pays variés. Le partenariat aussi vise à ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération régionale, notamment en matière de développement durable et aussi sciences et technologies.
Y a-t-il des raisons particulières pour lesquelles des pays tels que la France, le Cameroun, la Namibie et l'Afrique du Sud n'ont pas rejoint le partenariat pour la coopération atlantique, suggérant ainsi des désaccords ou des préoccupations potentielles à résoudre avant leur adhésion, ou bien ce partenariat est-il remis en question comme un forum superflu?
Je peux préciser que les États-Unis et les autres partenaires dans le partenariat continuent à identifier d'autres domaines de coopération pour le partenariat, et aussi nous essayons d'élargir et inviter d'autres pays membres pour faire partie de ce partenariat. Notre engagement à travailler avec les partenaires comprend aussi les autres bases multilatérales comme le traité sur la haute mer, et on a signé ça pendant cette semaine de l'Assemblée générale. On prévoit signer le traité plus tard cette semaine. On a toujours en tête de élargir et inclure le maximum de pays possible.
Et ce partenariat est censé créer combien de millions d'emplois?
Bon, il est difficile de prévenir maintenant les possibilités de croissance économique, etc., création d'emplois, mais il est certain qu'on va préserver les ressources naturelles, les modes de vie, et aussi promouvoir une croissance économique durable et responsable, qui est, par exemple, un des objectifs de développement durable auxquels on fait référence plusieurs fois cette semaine de l'Assemblée générale.
Joan Smonsis, porte-parole de langue française du département d'État. Alors que l'on craint que les objectifs de développement durable ne soient pas sur la bonne voie, les dirigeants du monde entier réunis à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ont adopté hier une déclaration politique qui devrait donner de l'espoir aux pays en développement. Plus de précisions avec Veronica Balderas-Iglesias depuis les Nations Unies à New York. Le récit est de John Lindon.
Par une journée pluvieuse à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a rappelé que les dirigeants du monde entier ont pris du retard dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable qu'ils ont adoptés en 2015 et qu'ils espéraient atteindre d'ici 2030. Denis Francis, président de l'Assemblée générale des Nations unies.
Malgré les engagements d'éradiquer la pauvreté et de réduire la faim qui sont au cœur de cet agenda, il est alarmant de constater que 1,2 milliard de personnes vivaient encore dans une pauvreté multidimensionnelle en 2022. On estime qu'environ 8% de la population mondiale, soit 680 millions de personnes, seront encore confrontées à la faim en 2030.
Les jeunes leaders se sont également inquiétés de l'absence de progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, réclamant des mesures pour lutter contre le changement climatique et des solutions concrètes pour donner à leur génération les moyens d'agir. C'est ainsi que Mayada Adil, une jeune leader qui tient aux objectifs de développement durable, l'a expliqué.
68 million young people are looking for jobs.
68 millions de jeunes sont à la recherche d'un emploi dans le monde entier. Des millions de jeunes ne peuvent pas accéder à une couverture sociale. Les problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété sont en outre une grave préoccupation pour les jeunes.
For young people.
Les dirigeants du monde ont réussi à adopter lundi une déclaration politique qui apporte une lueur d'espoir aux économies en difficulté, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Cela inclut un soutien clair à une stimulation des ODD d'au moins 500 milliards de dollars par an, ainsi qu'un mécanisme efficace d'allègement de la dette qui soutient les suspensions de paiement, des durées de prêts plus longues et des taux plus bas.
Selon Antonio Guterres, les pays peuvent contribuer à remettre les ODD sur les rails en prêtant attention à 6 domaines ciblés, notamment la lutte contre la faim, l'égalité des sexes et l'amélioration de l'éducation.
Notre proposition de pacte mondial pour le numérique aidera également les pays à mettre en place des systèmes numériques sûrs qui offrent un accès à l'Internet pour tous, y compris pour les étudiants des communautés difficiles à atteindre.
Antonio Guterres a également mis l'accent sur une autre initiative qui vise à créer 400 millions de nouveaux emplois, en particulier dans les secteurs de l'écologie, des soins et du numérique. Il a d'autre part souligné que les pays doivent agir maintenant pour sauver les objectifs de développement durable.
Au Mali, 5 soldats maliens ont été tués et 11 autres sont portés disparus après l'attaque dimanche de 2 camps militaires à Léré, non loin de Tombouctou, a indiqué l'armée malienne qui indique avoir perdu un avion. La coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes armés par les Touaregs, a revendiqué l'attaque. Idriss Fall a joint un autre confrère, Cheikh Sekou Maïga, directeur de Radio Niafunke, proche de Léré.
Ce qui s'est passé à Léré est difficile à raconter parce que même les populations qui vivaient à l'intérieur de la ville, même le dimanche aux environs de 15h28-15h30, vu l'intensité des combats, tout le monde était serré chez lui. Impossible pour un habitant de mettre la tête dehors, sauf quelques curieux qui souvent regardent vers le ciel, et tout le bruit se dirigeait du côté donc des deux camps, le camp militaire et le camp des gardes. Même après les combats, parce que la ville était complètement dans le noir, et puis dans la soirée, les gens ont peuplé également des réseaux. C'était impossible jusqu'au lundi matin, lorsque nous avons pu joindre quelques responsables de cette localité qui nous ont dit effectivement les combats ont été rudes, vraiment beaucoup de décès. Les gens ont finalement été enterrés. Même aujourd'hui, mardi, il y a eu en tout cas des corps de certains hommes qui ont été enterrés. Le lundi matin, l'armée malienne et puis certains de ses alliés étaient en train de patrouiller donc au niveau de l'Éré. Mais ce qui est certain, en termes de bilan, on peut parler de peur, on peut parler de panique, on peut également parler de déplacés parce que toutes les boutiques de l'Éré en ce moment donc sont fermées. Et pour certains habitants que nous avons pu joindre aujourd'hui, ils nous ont dit, même pour avoir du lait et du sucre, il est difficile de l'avoir car beaucoup de ces commerçants ont vidé leur situation.
Mais l'armée vient d'avancer un bilan de 5 soldats tués, un avion perdu, et 36 terroristes abattus.
Mais nous croyons à ces informations parce que ça vient de notre armée nationale. Mais ce qui est certain, il y a eu quand même 20 décès. Il y a également vraiment des historiques, des chefs et des déposés. Mais il est impossible de donner un réel bilan. D'autant plus que la communication est complètement difficile avec les populations et aussi ces populations qui sont tirées chez elles de peur qu'il y ait aussi un retour de ces groupes armés en direction de la ville de Béry.
Est-ce que les rebelles contrôlent la ville ou bien les rebelles ont été repoussés ou bien les rebelles sont partis d'eux-mêmes?
Il est impossible pour moi de vous dire exactement comment ils sont sortis. Ce qui est certain, selon beaucoup de mes témoins, les rebelles sont rentrés en ville. Ils ont été attachés en ville. Mais avant le matin, aucun d'entre eux n'était visible à part les soldats maliens et qui étaient en train de fatiguer dans les villes et dans la ville de Géré. Et ensuite, ils étaient en train de pouvoir donc essayer de regarder dans les coins et le coin de cette ville s'il n'y a pas encore d'autres rebelles qui sont cachés dans les alentours, soit de pouvoir faire un rapissage. Mais ce qui est certain, lors des combats entre 15h30 jusqu'à 19h, il était pratiquement impossible pour chacun de mairies de pouvoir savoir exactement ce qui se passe. En termes de bilan, je le dis encore une fois, il m'est très difficile de vous dire combien de personnes sont mortes dans cette situation. Des cadavres ont été enterrés à l'air et ceci dans la brousse, des cadavres qui sont un peu partout du côté de l'air.
Notre confrère Cheikh Sekou Maïga, directeur de radio à Niafunke, ville proche de l'Éré, au Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La Maison-Blanche se félicite du retour de 5 Américains d'origine iranienne détenus par le gouvernement iranien et libérés dans le cadre d'un accord qui libère 6 milliards de dollars de fonds restreints dus à l'Iran. Mais Téhéran reste inflexible quant à l'utilisation qu'il compte faire de cet argent. Ses détracteurs estiment que l'accord revient à payer une rançon à un régime de plus en plus autoritaire. Anita Powell fait le point. Récit Yacouba Ouedraogo.
5 Américains d'origine iranienne détenus depuis des années dans la prison d'Evin sont enfin libres. Le président Joe Biden affirme qu'ils sont innocents des accusations liées à l'espionnage. Son administration s'est félicitée de cette nouvelle. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Aujourd'hui, leur liberté, la liberté de ces Américains injustement emprisonnés et détenus en Iran depuis si longtemps, signifie des choses assez fondamentales. Cela signifie que les maris, les femmes, les pères et les enfants, les grands-parents peuvent à nouveau se serrer dans les bras les uns des autres, se revoir, être ensemble.
Ils sont arrivés lundi à Doha au Qatar en échange de la libération par les États-Unis de 6 milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes qu'ils avaient gelées dans une banque sud-coréenne en raison des sanctions. Les détracteurs de Téhéran affirment que le régime pourrait utiliser cet argent pour poursuivre son oppression et ses ambitions nucléaires. La Maison-Blanche souligne que cet argent est assorti de restrictions sévères. John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité.
Ces fonds seront désormais soumis à davantage de restrictions juridiques qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils se trouvaient en Corée. Si l'Iran tente de détourner ces fonds, nous prendrons des mesures et les bloquerons à nouveau. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un paiement de quelque nature que ce soit. Il ne s'agit pas d'une rançon. Il ne s'agit pas de l'argent des contribuables américains. Et nous n'avons pas levé une seule de nos sanctions contre l'Iran.
Le président iranien affirme que son gouvernement dépensera l'argent là où il en aura besoin. Selon les analystes, cet accord va au-delà de la libération des prisonniers et du gel des avoirs. Il intervient au moment même où des dirigeants du monde entier, dont le président iranien Ibrahim Raisi, rejoignent M. Biden à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Nicolas Carl effectue des recherches sur le Moyen-Orient dans le cadre du projet Critical Threat de l'American Enterprise Institute.
Il fait aussi partie d'un accord qui vise à réaliser des progrès diplomatiques en vue de contenir le programme nucléaire iranien et d'accélérer une désescalade plus large entre l'Iran et les États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient.
Dans un communiqué, Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à imposer des coûts à l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région. Par ailleurs, la Maison-Blanche a indiqué séparément qu'il a tenu lundi matin un appel émotionnel avec les familles des otages.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.